Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Grand Main Vous Face et comme toujours dans votre émission, eh bien de la santé, de la psychologie, de la philosophie appliquée au quotidien, des questions de société et également des loisirs. Et pour bien débuter cette sixième saison, une émission de prévention. Vous avez peut-être déjà eu un malaise vagal, le plus souvent sans gravité. Le malaise vagal lié à une chute de la pression artérielle et à un ralentissement du rythme cardiaque. Mais connaissez-vous le nerf vague lié à ce fameux malaise? Héros très discret, le nerf vague transporte quantité d'informations entre le cerveau et nos principaux organes. Vous le verrez ce matin, ce nerf que l'on appelle également pneumogastrique régule des millions d'opérations biochimiques indispensables à notre santé et à notre bien-être. De nombreux facteurs peuvent le faire vaciller et causer des difficultés digestives, de transit intestinal, de l'anxiété ou encore une fatigue passagère. Et parmi les principaux accusés, le stress chronique, une alimentation et une respiration inadaptée. Alors comment stimuler ce nerf vague pour un meilleur état de santé? Vous risquez d'être surpris ce matin. N'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner au 01 45 24 7000 sur la page Facebook de Grand Main Vous Face et sur l'appli France Inter où vous pouvez laisser une note vocale. Il est de retour, bronzé et affûté, notre médecin généraliste à Toulouse et romancier à succès, Baptiste Beaulieu. Bonjour.
Bonjour Ali.
Bonjour docteur. Alors pour la première chronique de la saison, vous n'irez pas avec le dos de la cuillère. Hein?
Non, c'est la rentrée, j'ai travaillé tout l'été, je suis sur les rotules et quand je suis fatigué, je suis irrité. Donc on va parler complotisme et égoïsme.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main Vous Face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Face.
Bah tiens, voilà l'artiste.
Voilà.
Les rognons grillés comme tu les aimes. À peine rosés.
Tu pourrais pas me faire plus plaisir. Comme je les aime. À peine rosés. Quand je vois ça, je revis.
Francis. Francis. Francis, fais pas le con.
J'espère que ça te servira de leçon tout de même.
Y'a pas de quoi se monter le bourrichon. C'est un malaise vagal. C'est pas grave. C'est les soucis.
C'est peut-être un malaise vagal. N'empêche que ça ressemble beaucoup à un infarctus.
Non, je t'en prie. Un infarctus.
Le fameux malaise vagal illustré ici dans le bonheur et dans le pré. Pour évoquer le nerf vague, nous recevons ce matin quatre experts. Bonjour docteur Guillaume Font.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital La Conception à Marseille, enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste reconnu de l'inflammation chronique et des liens entre le cerveau et le microbiote intestinal. Vous nous raconterez notamment les nouveaux traitements de la dépression grâce à la stimulation du nerf vague. Bonjour docteur Yann Rougier.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous vous intéressez à la neuroscience appliquée. Bonjour Marie Borel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste santé et vous publiez ensemble chez Le Duc stress, inflammation, troubles digestifs, immunité. Et si c'était le nerf vague? Bonjour Jean-Marie Desfossés.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences zoologiques, spécialisé en physiologie du stress, et vous avez publié chez Jouvence « Être en bonne santé grâce au nerf vague ». Alors en préparant cette émission, beaucoup de gens m'ont avoué leur ignorance sur ce nerf pourtant indispensable à notre bonne santé psychologique et physique. Le nerf vague, hein, c'est le plus long de notre corps, c'est le dixième nerf crânien, que l'on appelle également nerf pneumogastrique, et le médecin grec Galien le décrit déjà au deuxième siècle de notre ère. Le nerf vague est référencé dans près de 30 000 publications scientifiques. Docteur Yann Rougier, expliquez-nous de façon anatomique ce qu'est le nerf vague.
Alors d'abord, merci pour cette invitation qui est très intéressante. On parle de quelque chose qui est le centre de ma passion depuis une trentaine d'années, puisque vous m'avez présenté comme étant intéressé par les neurosciences. Neurosciences renvoie à quelque chose. D'ailleurs, je n'avais pas connaissance de tous les invités en présence que je salue et qui font des recherches exactement dans les mêmes créneaux. C'est-à-dire que ce fameux nerf vague qui remonte effectivement au niveau de la connaissance à de nombreux siècles, eh bien, est inconnu quelque part, mais en même temps est très connu parce qu'il nous permet au quotidien de vivre sur chaque chose sans avoir à y réfléchir, puisqu'il fait partie, en quelque sorte, c'est un espace de ce qu'on peut appeler le système nerveux autonome. Donc dans le système nerveux autonome, c'est quelque chose qui agit à partir de notre cerveau et qui nous permet d'être pleinement vivant et pleinement humain et sans avoir à y réfléchir. On n'a pas à réfléchir pour respirer spontanément ou digérer. Et donc, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur le nerf vague. C'est effectivement la dixième paire. D'ailleurs, le nerf vague est un singulier, mais bien entendu, comme les nerfs crâniens, c'est une paire, il y en a deux. Hein. bien entendu, qui partent de chaque côté à la racine du cerveau. Et on dit le parce que c'est passé dans le langage courant. C'est effectivement un nerf qui est très long. On a mis très longtemps avant de comprendre tout ce qu'il pouvait innerver et en même temps faire remonter comme information. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, il s'appelait vague. Et on s'aperçoit dans les dernières décennies, et j'ai entendu qu'on avait un confrère que je connais de nom et que je salue, qui fait des travaux remarquables.
Guillaume Font.
Sur la stimulation de ce nerf vague. Et on va voir que, effectivement, ce nerf est à la source, justement, de cet équilibre de notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est un frein et un accélérateur, comme pour conduire une voiture au niveau de notre corps. Il y a un frein, qui est donc le système, le nerf parasympathique, tout le système parasympathique, et un accélérateur, l'orthosympathique. Et bien vivre, c'est avoir un équilibre entre le frein et l'accélérateur, comme pour conduire une voiture. Si on accélère trop, on sort de la route. Si on n'accélère pas du tout, on bouge pas. Et à un certain moment, et c'est là le point, je dirais, qui a mis en relief le nerf vague actuellement, c'est l'excès de stress de la vie courante qui a généré beaucoup de maladies dégénératives chroniques, notamment inflammatoires, d'où l'intérêt, et beaucoup de désordres, ce qu'on appelle les mal-êtres chroniques. Mmh. Donc ce nerf part du cerveau et innerve, en descendant le long de notre colonne vertébrale, effectivement au départ, les poumons, même certaines branches au niveau du larynx, et tout le système digestif. Et donc c'est très très important, puisque ce nerf vague, en quelque sorte, et vous l'avez bien dit vous-même, est le héros, le nerf héros au quotidien, du bien-être ou du mal-être, sans rentrer dans les grandes maladies. Mais c'est ce qui va, quand on va bien le comprendre et bien le gérer, on peut vraiment améliorer chaque jour sa qualité de vie.
Alors ce nerf vague relie donc le cerveau aux principaux organes, du crâne aux viscères, du cerveau au cœur, aux poumons, à la rate, à l'intestin, au foie. Peut-on dire que c'est principalement le nerf vague qui distribue les informations entre le cerveau et les organes, docteur Guillaume Font?
En fait, le nerf vague, c'est un nerf dont on sait maintenant que depuis 1938, on sait que 80% des informations vont des viscères vers le cerveau. Donc en fait, il a deux fonctions. En fait, il y a une fonction qui va du cerveau vers les organes et notamment une diminution, par exemple, de la fréquence cardiaque. Et ça va être important pour les questions de stimulation. Et on pense aussi que ça peut jouer dans le mécanisme d'action du bien-être, puisqu'on sait que quand le cœur s'accélère, c'est une réaction d'alerte. Et donc, en fait, on va l'interpréter sur le plan émotionnel comme un stress. Et 80% de ces informations vont des organes vers le cerveau qu'il va traiter en permanence. Donc, comme on vient de le dire, c'est inconscient. Ce qui veut dire en fait que ce nerf va nous transmettre une information générale de ce qui est en train de se passer dans notre corps et que ça peut aussi transmettre des signaux d'alerte bien avant que l'on en ait conscience. Donc c'est un nerf qui est vraiment capital et dont on a découvert aussi les fonctions, on en reparlera, dans la dépression et notamment dans les dépressions qui ne répondent pas aux antidépresseurs.
Docteur Font, sur votre domaine de compétences, le nerf vague, c'est la voie royale de communication entre le cerveau et l'intestin?
Oui, c'est la voie anatomique en fait de communication entre les deux tiers antérieurs de l'intestin. Donc j'insiste sur les deux tiers antérieurs parce qu'en fait il y a différentes parties dans l'intestin et on travaille sur chacune de ces parties. Donc la première partie, c'est le duodénum, ensuite il y a l'intestin grêle et c'est cette partie-là qui est innervée par le nerf vague. Et on sait qu'il y a beaucoup de syndromes comme le syndrome de l'intestin irritable ou un syndrome qui s'appelle le SIBO, en fait, où il y a des troubles de l'acidité gastrique qui vont perturber les bactéries localement, qui vont se mettre à pulluler et qui vont du coup créer une inflammation locale. Et cette inflammation va moduler les informations du nerf vague, et donc qui va envoyer un signal au cerveau. Donc c'est très important de prendre conscience en fait que ce nerf est connecté dans le cerveau à des voies directement connectées au système émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait on a donc une première étape et puis dans la deuxième étape, c'est des neurones qui déclenchent de la sérotonine et de la noradrénaline. Mmh. Et donc c'est par ce mécanisme-là, entre autres, hein, parce que ce n'est pas le seul, que l'intestin communique avec le cerveau.
Allez, écoutons une note vocale déposée par Vincent de Nancy.
Oui, bonjour, grand bien vous fasse. Je me demandais, si le nerf vague, c'est quelque chose qui est si important au sein de l'organisme, pourquoi est-ce que je n'en ai jamais entendu parler chez mon médecin, par exemple?
Jean-Marie Desfossés.
C'est une bonne question, je me permets de saluer les autres invités. Et écoutez, c'est un mystère, mais peut-être parce que c'est tellement le champ d'interaction de ce nerf est vaste, et aujourd'hui, on a beaucoup avancé dans le savoir en faisant des compartimentations. Le nerf vague, c'est justement le nerf de l'unité du corps. Le corps forme un tout. Ce tout a des capacités de réparation, d'auto-réparation et d'auto-adaptation fascinantes. Et ce qui contrôle ces capacités d'adaptation, que ce soit au niveau digestif, neurologique, immunitaire, sociologique, c'est le nerf vague.
Docteur Baptiste Beaulieu.
Oui, c'est étonnant parce que qu'un nerf qui soit aussi important, finalement, au cours de nos études, soit assez survolé. On en parle en anatomie, en physiologie, et puis voilà. Et à une époque où on est aussi concentré sur tous les problèmes d'anxiété, de dépression, de malbouffe ou de microbiote intestinal, finalement, ce nerf qui est le nerf de la guerre, on le laisse un petit peu tomber, quoi. Alors que c'est passionnant.
Alors, peut-on dire, comme Science et Avenir, que le nerf vague est le nouveau couteau suisse de la médecine? Le nerf vague, c'est un peu notre médecin interne, docteur Yann Rougier?
Vraiment, d'abord, je voulais exprimer une émotion que je ressens en partageant cette émission avec les consoeurs et confrères. C'est que c'est assez rare, mais qu'on vienne du milieu hospitalier ou le journalisme scientifique ou même les autres scientifiques qui parlent avec nous. C'est un moment assez intéressant parce que, quelque part, on a tous la même émotion et le même ressenti face à ce nerf vague. Et il y a une phrase qui a été dite il y a très peu de temps qui vient s'exprimer en disant qu'effectivement, c'est le couteau suisse et ça concerne l'équilibre entier du corps. Et je pense qu'on en a peu parlé sous sa forme nerf vague, qui est donc le côté, je dirais, scientifique, parce qu'on a trouvé, pendant le siècle qui vient de passer, le 20e, beaucoup d'approches qui finalement vont avoir une influence, on en reparlera sur le nerf vague. Cela peut toucher par exemple des formes aussi simples que la cohérence cardiaque, cela peut toucher les idées au niveau du body scan, même le très ancien training autogène du docteur Schulz, eh bien déjà parlait, sans le citer, du nerf vague. Et je pense qu'il y a une très grande avancée actuellement, et les neurosciences, nous sommes tous en train de parler de neurosciences, ce n'est pas une spécialité, c'est juste un consensus au niveau de ce lien que l'on redécouvre entre corps et esprit, c'est le body-mind medicine des anglo-saxons. C'est très intéressant, puisqu'en réalité, on redécouvre les processus, et le mot était prononcé également, les processus d'auto-guérison du corps. Et on s'aperçoit que, sans qu'elles s'opposent, il y a eu un moment où on parlait des médecines douces, toutes ces choses-là. Je crois que maintenant, il y a quelque chose de très important qui est en marche et qui starise ce nerf vague. C'est qu'on s'aperçoit que, avant que les médecins existent, il y a très très longtemps, eh bien, l'humanité a survécu. Elle a survécu pendant un certain temps sans médecin, parce qu'il y a des processus d'auto-guérison du corps. C'est la médecine du corps. Et on s'aperçoit que finalement, ce nerf vague, bien le connaître et bien le maîtriser, eh bien ça redonne toute la parole à cette médecine du corps. Ensuite, la médecine s'est développée, il y a eu la médecine des hommes, et la médecine, je crois, du futur, c'est cette collaboration étroite entre médecine des hommes, médicaments, chirurgie, etc., et médecine du corps, où on va voir qu'on peut agir sur le nerf vague de façon clinique, les stimulations électriques en font partie, il y a un spécialiste parmi nous, c'est génial, et également de façon quelque part extérieure, c'est la cible des neurosciences, la respiration, des formes de concentration, de body scan, et l'alimentation également. Donc c'est vraiment le couteau suisse.
Alors au cours du XXe siècle, les chercheurs ont découvert le rôle de régulateurs cardiaques et d'anti-épileptiques, du nerf vague. Les scientifiques ont ensuite compris son rôle anti-inflammatoire au cours des années 2000. Docteur Guillaume Font, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'inflammation chronique et pourquoi elle est impliquée dans de nombreuses pathologies et le rôle du nerf vague dans ces questions d'inflammation chronique?
Donc l'inflammation, c'est une réaction de défense de l'organisme face à une agression. Alors il y a plusieurs types d'agressions, ça peut être des agressions physiques comme une plaie, agressions biologiques comme une infection, mais c'est aussi des agressions psychiques, c'est-à-dire que le stress de l'environnement est une agression et que ça va activer des défenses de l'organisme. Et donc, comme on vient de le dire, tout est une question de balance dans l'organisme. Donc, quand on parle d'auto-guérison, c'est souvent un retour vers l'équilibre de quelque chose qui a été déséquilibré. Déséquilibré par un mode de vie qui n'est pas conforme à la santé. Déséquilibré par une réduction du sommeil, par exemple, par une mauvaise alimentation, par le tabac. Et donc, Cette inflammation peut devenir chronique, c'est-à-dire que le corps en permanence est en train de se défendre, et donc le nerf vague a une fonction en fait de contrebalancer cela, c'est-à-dire que c'est toujours une balance entre une défense et un apaisement entre guillemets, on pourrait dire pour simplifier les choses. Et donc, quand le corps est en inflammation chronique, en fait, le nerf vague s'épuise, entre guillemets, c'est-à-dire que à force de contrebalancer, au bout d'un moment, il ne remplit plus son rôle d'extinction de l'inflammation.
Peut-on dire que de nombreux désagréments dits fonctionnels sont liés au nerf vague, docteur Font ?
Oui, en fait, le nerf vague, c'est toujours, comme beaucoup de choses dans l'organisme, en fait, un reflet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, notre organisme, c'est un tout, et tout est interconnecté. Donc, le nerf vague, il est en interaction. C'est un reflet. C'est-à-dire que si on sait, par exemple, qu'il y a, un syndrome vagal, hein, donc, un nerf vague qui est insuffisamment, stimulant, donc, il y a des signes comme par exemple la bradycardie, le ralentissement du cœur et d'autres qui indiquent ce syndrome. Donc ça peut être à la fois un terrain génétique, hein, c'est-à-dire qu'on a, on part pas tous avec les mêmes cartes à la base, et on peut penser donc qu'il y a des nerfs vagues plus efficaces entre guillemets que d'autres. Et puis c'est aussi un reflet de toute la vie de la personne, c'est-à-dire que si en permanence la personne a été exposée à des stress, et nous en psychiatrie on est assez sensible par exemple à l'exposition pendant l'enfance et l'adolescence, à ce qu'on appelle l'adversité en fait sur le plan scientifique, donc c'est-à-dire en pratique c'est les mauvais traitements et les négligences envers les enfants, tout ceci va épuiser le nerf vague. Et donc c'est le signe d'un dysfonctionnement général, et ça on peut le corriger médicalement, alors par des méthodes de stimulation électrique, hein, mais aussi par d'autres méthodes, et je pense notamment à l'activité physique et à l'alimentation.
Marie Borel, vous êtes journaliste santé, vous avez donc coécrit un ouvrage consacré au nerf vague. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné au fil de votre enquête ?
Étonné, ce qui m'a étonné d'abord, c'est à quel point ce nerf vague est représentatif de la merveilleuse machine qu'est le corps humain. C'est quelque chose, quand on se penche sur ce sujet, qui, moi, m'émerveille de penser qu'à chaque seconde dans l'organisme, il y a des milliers de réactions biochimiques de toutes sortes, que c'est ça qui fait la vie, et que c'est absolument émerveillant, et que le nerf vague est un des maîtres, des chefs d'orchestre. Ça, je trouve ça époustouflant. Et ce qui m'a intéressé aussi dans l'histoire du nerf vague, c'est que ça a un côté pédagogique. C'est-à-dire que quand on est très stressé, anxieux, angoissé, extrêmement fatigué, c'est très difficile de se dire « je vais me déstresser, je vais annihiler mon angoisse ». On est devant une montagne qu'il est impossible de gravir. Travailler sur le nerf vague, c'est renverser un peu la vapeur et se dire « je vais par des petits gestes quotidiens faire du bien à cette autoroute de la psychosomatique, faire du bien et du coup améliorer progressivement tout le système ».
Question d'Isabelle Baptiste Beaulieu. Je suis sujette au malaise vagal depuis que je suis petite. Premier malaise vers 12 ans, tout comme mon père et ma grand-mère paternelle. Nous avons tous une petite tension. Est-ce lié ? Est-ce génétique ?
Il y a probablement, bien sûr, une participation congénitale et génétique. Il faut distinguer... c'est toujours compliqué les malaises, hein, parce que ça peut être un malaise vagal, ça peut être un malaise hypoglycémique qu'on attribue.
Comment on reconnaît un malaise vagal d'ailleurs ? Et comment le traite-t-on ?
Alors, le malaise vagal, on le traite d'abord, enfin, c'est comme ça qu'on fait en système D, c'est allonger la personne et puis relever les membres inférieurs. Après, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, mais la priorité, c'est d'éliminer d'abord le malaise hypoglycémique, qui est bien plus grave que le malaise vagal, et donc s'assurer que la personne a quand même eu s'est alimentée quelques heures avant son malaise, quoi.
Jean-Marie Desfossé, quelques exercices de respiration en cas de malaise vagal.
Je voudrais dire quelque chose pour défendre le nerf vague, parce qu'on va appeler ça un malaise vagal et se dire, en fait, là, le nerf vague dont on dit jusqu'à présent qu'il nous fait énormément de bien, il me fait m'évanouir. Mon interprétation de ce qui se passe au niveau du système, c'est le nerf vague, il fait son travail de réparateur et calmant, mais il ne sait faire que ça, même si c'est énorme. Si le malaise vagal intervient lorsque le système nerveux excitant a tellement sollicité en permanence que c'est lui qui se met à genoux. Et donc, le corps se retrouve non plus en équilibre, mais avec seulement un système calmant qui fait son job. Et la personne s'effondre avec une baisse de tension, un ralentissement du cœur.
Un exercice de respiration peut-être, en cas de malaise vagal.
Mais ça va tellement vite qu'il faudrait en fait faire un exercice qui est un exercice stressant. Comme ça, vite, je dirais que, ça va être curieux ce que je vais dire, mais une apnée, enfin, vider les poumons, bloquer la respiration.
Baptiste Beaulieu.
Au cours de nos études, on était 2-3 étudiants, on regardait une chirurgie, on est tous les trois tombés dans les pommes en regardant la chirurgie. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps quand on assiste à, par exemple, une opération de chirurgie, qu'on est jeune étudiant, pour qu'on tombe dans les pommes? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement?
Si c'est vraiment tombé dans les pommes, suite non pas à un overflow, mais vraiment...
C'est quoi l'overflow?
C'est le système qui, pour ne pas s'emballer, va se couper. Mais là, c'est l'inverse. C'est le système qui... Le corps se retrouve dans une situation où le rythme cardiaque et la pression artérielle baissent au tel point qu'il y a un désamorçage. Okay. Si c'est ça qui se produit... ce qui se passe, ce sont des... Ce qui est intéressant, c'est que dans l'évolution des nerfs vagues, au niveau de l'évolution, une personne qui a beaucoup travaillé sur le nerf vague au niveau sociologique, psychologique, qui s'appelle Stéphane Porges, prétend qu'il y a, enfin sa théorie, c'est qu'il y a une troisième méthode de protection. Enfin, il y en a deux en fait. Soit vous êtes standard, tout va bien, soit vous êtes en le fameux combattre et fuir, soit le troisième, en fait, se désamorcer pour faire le mort. Et ce serait ça. Quand quelque chose est trop, un danger semble trop, une sensation trop importante, on passe en désamorçage.
Allez, dans quelques instants, nous continuons à évoquer le rôle fondamental du nerf vague dans notre santé et notre bien-être émotionnel. Vous verrez comment le stimuler, vous risquez d'être surpris. N'hésitez pas à utiliser le nouvel outil à votre disposition, la note vocale accessible depuis l'appli France Inter. J'aimerais souhaiter la bienvenue à une nouvelle attachée de production qui nous rejoint cette saison, Camille Pouge-Aladier. C'est désormais Claire Destacan qui réalise l'émission. Merci à Stéphanie Texier qui l'a brillamment réalisé pendant 4 saisons. Et pour bien commencer l'année, on écoute Blondie, Heart of Glass, programmé par Valentine Chedebois.
Heart of Glass.
Alors, comment allez-vous?
Il me met au régime. Lisez l'ordonnance.
Grand bien vous fasse.
C'est un danger, ce docteur. Faut déjà aimer les légumes.
Ali Rebéi.
Un verre de vin par semaine, il est fou. Vous allez jamais pouvoir tenir.
Sur France Inter.
Je vais ruser.
Il est 10h32, tout, vous saurez tout sur le nerf vague, indispensable à notre bonne santé et à notre bien-être émotionnel. Nos experts répondent à vos interrogations et réagissent à vos témoignages sur l'appli France Inter, où vous pouvez nous laisser des notes vocales. Le standard est également ouvert au 01 45 24 7000.
Il faut savoir que le système nerveux est composé de deux parties. Il y a un système nerveux sympathique et un système nerveux parasympathique ou système nerveux vagal. Le système nerveux sympathique est un système nerveux qu'on va déclencher lorsqu'on fait un effort, lorsqu'on fait une activité. Ça permet d'augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter la tension artérielle. Le système nerveux parasympathique ou vagal, lui, va se déclencher plutôt dans une situation de repos, lorsqu'on est en train de digérer, lorsqu'on est en train de s'endormir. Il permet de diminuer la fréquence cardiaque et de diminuer la tension artérielle. Il y a un équilibre constant entre ces deux composantes du système nerveux. Et il arrive qu'à un moment, suite à un stimulus, à un stress, le système vagal prennent le dessus par rapport au système sympathique alors qu'il ne le devrait pas. Et cela se traduit du coup par une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse de la tension artérielle, du coup moins de sang qui arrive au cerveau, moins d'oxygène qui arrive au cerveau, et donc cela se traduit par l'apparition de ces symptômes, de ces nausées, picotements, voiles dans les yeux. Et si le taux d'oxygène qui arrive au cerveau ou la baisse de tension se prolonge un peu trop, ça peut arriver jusqu'à une perte de connaissance.
L'urgentiste Guillaume Fons dans Télématin en 2018. Alors, docteur Yann Rougier, le nerf vague est donc impliqué dans la détente globale de l'organisme et cette détente est très importante pour une meilleure réponse immunitaire. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, c'est un point très très important. Je vous remercie de le soulever. Eh bien, je pense que tout a déjà été dit dans la première partie d'émission. On a vu que ce nerf vague est relié à de très très nombreux organes. Vous avez cité poumon, cœur, foie, estomac et intestin. L'intestin lui-même étant sous la dépendance d'un espace qui est le fameux microbiote, maintenant dont on parle de plus en plus, ces bactéries qui nous veulent du bien. Donc, quand on regarde un petit peu avec du recul le nerf vague, on s'aperçoit que les liens, et on l'a dit tout à l'heure, concernent toute cette médecine du corps. Et en priorité, on peut dire que sous la dépendance du système nerveux, eh bien, il y a le système immunitaire et aussi également le système hormonal dont on parlera moins. Donc c'est très intéressant dans cette période où le système immunitaire est quand même très, je dirais, starisé, puisque nous sommes dans cette pandémie. Et vraiment, c'est une tragédie, je la regrette, mais on trouve de plus en plus des bonnes solutions. Et je me permets de souligner une chose, c'est que tout à l'heure, on se demandait pourquoi le nerf vague était passé sous silence depuis si longtemps. Mais le si longtemps, c'est juste un siècle. Il faut se rappeler qu'à la fin du 19e, il y avait l'école de psychosomatique avec Charcot, tout ça, et la Pitié Salpêtrière. On était une référence européenne, voire mondiale. Et puis, il y a eu les progrès immenses de la chirurgie et les antibiotiques. Et là, on s'est dit, un petit peu d'ego de l'humanité, on s'est dit on va tout résoudre avec des molécules. Et effectivement, on a pu résoudre les pandémies bactériennes. Et on voit qu'aujourd'hui, la limite de la médecine des hommes, c'est le chronique. C'est-à-dire on passe du bactérien actuellement au virus, et le virus dépend énormément de notre propre terrain. Pasteur l'avait dit d'ailleurs à un moment, le virus n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Et ce fameux terrain dont on parle très souvent, eh bien c'est le synonyme, c'est le nerf vague. Donc on reparle un siècle après du nerf vague, parce que ce nerf vague va gérer au quotidien la force de notre système immunitaire en fonction du stress, de l'alimentation, de nos émotions, ça a été signalé tout à l'heure et c'est très important, et ça redonne un élan vers une médecine d'un homme complet, alors que le XXe siècle a hyper fragmenté l'être humain. Maintenant on est obligé vraiment de le reconstituer dans sa plénitude d'humanité. Et le point d'appui, c'est le nerf vague.
Docteur Guillaume Fon, je rappelle que vous êtes psychiatre et enseignant-chercheur à l'université Aix-Marseille.
Oui, je voulais dire que, bon, d'une part, moi aussi, je suis tombé dans les pommes à ma première opération pour Baptiste Beaulieu. Et puis, d'autre part, qu'il y a un organe aussi qu'on n'a pas cité depuis le début de l'émission, parce qu'on dit qu'il est facultatif, mais il n'est pas tant que ça, c'est la rate. Mm-hmm. Parce qu'en fait, avec les intestins, le nerf vague innerve la rate, et la rate, en fait, a une fonction immunitaire, en fait. Et donc, il a été démontré maintenant que quand on stimule le nerf vague, il y a une extinction complète de la libération de TNF. Alors, le TNF, c'est un nom qui est bien connu des patients qui ont des maladies chroniques inflammatoires, parce qu'il y a des médicaments qui vise l'extinction du TNF. Et donc on pense que c'est un des mécanismes aussi par lesquels le nerf vague peut contribuer, voilà, à cet assouplissement du système immunitaire quand il y a des maladies chroniques auto-inflammatoires. Auto-inflammatoire, ça veut dire que le corps commence à s'attaquer lui-même.
Écoutons une note vocale laissée par Nina de Chaumont-le-Bois.
Bonjour, votre émission est assez intéressante car je suis sujette à des crises d'angoisse. Est-ce que le nerf vague intervient lors de ces épisodes-là? Merci.
Docteur Fons, c'est pour vous?
Tout à fait. Donc, dans toutes les manifestations d'angoisse, il y a un déséquilibre du système autonome. Donc, le système autonome, c'est la balance entre le système orthosympathique et parasympathique. On en a parlé. Donc, le nerf vague, c'est parasympathique. Donc, de fait, quand on est dans une situation d'angoisse, il y a un sentiment d'agitation, de stress, d'hypervigilance. Donc, c'est de l'activation de l'orthosympathique, ce qui veut dire que le nerf vague est dans l'extinction. Donc, effectivement, il ne contrebalance pas suffisamment, en fait, le système orthosympathique.
Et il existe donc des liens scientifiquement prouvés entre certains troubles de l'humeur, comme la dépression, et une mauvaise stimulation du nerf vague?
Oui, alors en fait, c'est comme pour beaucoup de choses, ça a été découvert de façon fortuite. En fait, initialement, la stimulation du nerf vague, on l'utilisait pour l'épilepsie, pour des épilepsies résistantes, et on s'est rendu compte en fait que les patients qui étaient stimulés avaient une amélioration de leur humeur, et c'est comme ça qu'on a découvert l'effet antidépresseur du nerf vague. Et aujourd'hui, il y a des indications. Alors, il n'y a pas d'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, donc voilà, il n'y a pas de label pour le processus. Par contre, l'efficacité démontré et on l'utilise, on dit, en usage compassionnel pour des dépressions très sévères et résistantes. Donc voilà, c'est pas pour le tout venant, hein, c'est pour vraiment des personnes qui n'ont pas répondu à une grande série d'antidépresseurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi efficace dans la dépression bipolaire, qui est une dépression très difficile à traiter.
Jean-Marie Desfossés, je rappelle que vous êtes docteur en sciences zoologiques, spécialisé en physiologie des stress. On parle beaucoup de stimulation du nerf vague, mais ça veut dire quoi exactement, stimuler le nerf vague?
Merci pour la question. Alors, ça veut dire prendre soin du corps dans son entièreté, sur toutes ses dimensions d'être, qu'elles soient de fonctionnement, de structure, anatomie, qu'elles soient dans le relationnel par rapport à soi-même, le psychologique et même le relationnel par rapport à l'environnement. Pour être heureux, pour que mon nerf vague fonctionne, mon corps a besoin de se sentir au mieux de ce qu'il peut être. Avoir une alimentation absolument idéale, des apports en micronutriments idéales, avoir un environnement qui est idéal, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'espèce humaine, un environnement où la nature a sa place, un environnement social qui est idéal, c'est-à-dire où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de tension, des postures, des gestuelles qui sont nécessaires. Par exemple, le corps humain a besoin de marcher, a besoin de mouvement, a besoin d'étirement.
Docteur Yann Rougier.
Écoutez, je ne peux que valider chacune des choses. Je crois que, et c'est très très agréable, j'ai dit en début d'émission, nous sommes en train tous de converger vers justement cette prise de conscience de l'entièreté du corps. Le mot a été prononcé très souvent. Je le valide plus que tout. Les neurosciences appliquées disent que tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, et dans ce protège, il y a le mouvement, pense et ressent des émotions. Et au fil de l'émission, on s'aperçoit bien que même si on reste dans le très technique avec des stimulations qui peuvent être électriques du nerf vague, il existe aussi des façons, je dirais, neuroscientifiques appliquées de le stimuler. On a parlé de la respiration, on peut aussi réévoquer une technique maintenant qui est très connue du grand public, le body scan. On visualise le corps humain des pieds à la tête. Et puis, il y a des petits travaux qui peuvent être d'écriture. Le mouvement, la marche en fait partie. C'est une des activités les plus rééquilibrantes et la plus simple pour le nerf vague. Donc, nous sommes en train de parler tous ensemble et de mettre en place, et je pense que c'est un beau message pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'il y a une partie de notre santé qui nous appartient, cette médecine du corps, pardon, et nous pouvons toutes et tous être actrices ou acteurs de notre santé. Je pense que c'est le plus grand message du nerf vague. Les médecins, bien entendu, restent les coordinateurs de notre santé. La médecine des hommes est indispensable et elle doit continuer à progresser.
Il faut le marteler. Docteur Guillaume Font, le nerf vague, stimuler son nerf vague, c'est pas une panacée non plus.
Ah non, effectivement, en fait, on parle d'un... Alors, la stimulation dont je parle, hein, j'insiste sur le fait que c'est vraiment pour quelques dizaines de personnes en France. Hein, c'est pas quelque chose qui se pratique couramment. C'est vraiment pour des dépressions très sévères avec des gens qui sont impactés, qui ne peuvent plus sortir de chez eux, de travailler, qui avec des grosses conséquences pour leur vie quotidienne, avec des dépressions qui durent depuis des années. Et en fait, donc c'est des implantations, ça se fait en neurochirurgie, en fait... Donc il y a une anesthésie générale, donc on sait que tout acte chirurgical n'est pas neutre. Et donc c'est un boîtier qu'on implante sous la clavicule, donc c'est quand même un procédé externe invasif. Donc effectivement, il y a d'autres méthodes bien avant cela qu'on a évoqué, qui passent par la respiration. Et j'indique d'ailleurs que dans le processus de jeûne, il y a des études qui sont en cours aussi pour voir les effets du jeûne sur l'activation du parasympathique, donc du nerf vague en particulier, puisque donc le nerf vague, c'est un nerf qui est impliqué dans la digestion, mais le fait de supprimer la digestion permet aussi, dans certains cas, potentiellement de rééquilibrer la balance entre le sympathique et l'orthosympathique, avec un corps qui, du coup, va s'adapter à cette diminution d'apport de nourriture. Mais ça, c'est surtout étudié dans des pays comme l'Allemagne et la Russie, très peu en France. Mmh.
Marie Borel, journaliste santé.
Oui, alors, on a parlé de ces techniques qui sont des techniques un peu invasives, réservées à des cas particuliers. Mais au niveau de tout un chacun, au quotidien, on peut se fabriquer une hygiène de vie quotidienne qui va dans le sens de la stimulation du nerf vague. Et des petites choses qu'on peut répéter dans la journée qui s'inscrivent dans le rythme de vie, comme par exemple le fait de se gargariser le matin.
Ah bon ?
Après s'être lavé les dents, on se gargarise. Il y a un effet vibratoire sur toute la zone du pharynx, qui est elle aussi innervée par le nerf vague, et qui crée une petite stimulation ponctuelle, toute petite. Il y a le fait de chanter aussi. Chanter à tue-tête, sous sa douche, dans sa voiture. Alors ce sont des petites choses, des toutes petites choses. Mais quand dans une même journée, vous ajoutez ça le matin, et puis il y a une respiration, et puis à midi, une petite relaxation, et puis l'après-midi, un peu d'exercice physique, et puis faire du yoga, du qigong.
On
peut se créer comme ça une hygiène de vie quotidienne, faire attention à son alimentation aussi, de façon à ce que la stimulation du nerf vague, elle en quelques semaines, elles s'inscrivent dans le quotidien et qu'on n'ait plus à y penser.
On reviendra dans quelques instants sur quelques techniques naturelles pour stimuler son nerf vague. En attendant, on retrouve notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu, bronzé, affûté et pas content.
Oui, Ali, vous saviez-vous, selon les chiffres de l'OMS, 4,7 milliards d'injections de vaccins anti-Covid ont été injectées dans le monde, mais seulement 1,3% de ces injections ont bénéficié aux pays les plus pauvres. Vous saviez-vous que la France a acheté 273% des doses nécessaires à ses besoins et que cette inégalité, évidemment, elle va empirer avec la troisième dose. Ici, en France, j'ai entendu tout l'été des complotistes anti-vax dire « on manifeste pour la liberté ». Les gars, est-ce que vous pourriez aussi manifester pour que les vaccins qui vous étaient destinés et qui manquent aux pays en voie de développement puissent être rendus aux populations de ces pays-là? Parce que on nous demande de nous vacciner pour pouvoir aller déguster des steaks frites en terrasse. Hein. Les populations qui meurent en ce moment dans les pays qui n'ont ni les moyens financiers, ni le poids politique pour peser dans le jeu des grandes entreprises pharmaceutiques, ces populations-là, elles pigent vite la différence entre restriction de liberté et restriction de confort. Quand on ouvre plusieurs crématoriums dans la ville de Bangalore, ils se sentent comment les complotistes français qui savent que s'ils tombent malades, ils seront soignés dans les meilleurs hôpitaux du monde. C'est quoi cette manière pour l'Occident de se mettre encore une fois au centre de l'histoire, au détriment du reste du monde? C'est quoi cette égotrip un peu déplacée et qui ridiculise un peu par association l'attention pourtant toute particulière que nous devrions porter en ce moment aux tentations autoritaires des gouvernements démocratiques qui sont fragilisés par la crise? Bah oui, quoi, c'est plus dur de prendre au sérieux le type qui t'alarme très justement sur ses risques de dérive antidémocratique quand il te parle juste après de nanoparticules, de 5G ou de génocide mondial programmé. Se faire vacciner n'est pas un vote d'adhésion à la politique macronienne. La vaccination n'est pas un référendum pour ou contre ce gouvernement. Pardon Ali, mais il arrive un moment, il faut que cette phrase soit dite et écrite, il n'y a pas de complot. Ce vaccin n'est pas là pour réduire la population mondiale ou tuer les pauvres. Ni dans un an, ni dans cinq ans, parce que décidez-vous, ça change tout le temps. Et dans cinq ou six ans, cependant, tout le monde aura oublié l'indécence où nous nous voterons aujourd'hui. Et ceux qui seront morts là-bas, faute de vaccin, ne seront plus ici pour soutenir nos regards. C'est toujours les mêmes qui paient et qu'on laisse crever.
Vous êtes très énervé, Baptiste, hein ?
Oui, oui, je suis énervé, Ali, mais j'ai une bonne raison. Vous savez qu'on jette des doses de vaccin tous les jours. Soit parce que les flacons se périment sans avoir trouvé preneur, soit parce qu'on a ouvert un flacon de 10 doses, mais la moitié des patients n'ont pas honoré leur rendez-vous. C'est pas un sacré privilège, ça ? Et moi, je vois ces photos de charniers en Tunisie, de crématoriums à ciel ouvert en Inde. Je me sens comment le soir, à votre avis ? Vous pensez vraiment qu'un complot visant à tuer une partie de la population mondiale s'attaquerait en premier lieu aux pays occidentaux, que Bill Gates s'est levé un matin avec ses potes Illuminati? Hey, j'ai une idée, on va créer une fausse pandémie et les gens vont se vacciner avec un produit qui les tuera ou les rendra stériles. Mais au lieu de s'attaquer aux pays pauvres, on va se concentrer sur les ovaires des Américaines et des Européennes. Ne vous inquiétez pas, si ce complot existait, tous les pays en voie de développement auraient reçu des millions de doses de vaccins. Attention, révélation, ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que pendant que des milliers de familles sont endeuillées là-bas, nous ici, au chaud, dans la sixième puissance mondiale, on transforme un privilège en problème de riches. On s'invente des combats pour se rêver en sujet principal d'une injustice historique qu'on ne subit pas. Et pourquoi ? Pour s'imaginer en héros d'une guerre qui n'existe pas chez nous, mais qui tue encore et toujours les mêmes ailleurs. Et ces visages, nous ne les croisons jamais, mais ils existent. Et ils comptent autant que les nôtres.
Et vous pouvez podcaster la chronique de salubrité publique de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter. Dans un instant, vous verrez pourquoi chanter, même faux, je chante faux, et pourtant je peux stimuler mon air vague. En attendant, on écoute Benjamin Biolay, Ma route.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France, de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne, et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, ma route, ma route. J'ai passé les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé les checkpoints, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule dans la nuit. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule.
Benjamin Biolay, interpréter Ma route.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h51, tout, vous saurez tout sur le nerf vague, indispensable à notre santé et à notre bien-être.
Elle respire encore. Elle respire encore.
Pourquoi une bonne respiration permet de stimuler notre nerf vague, Jean-Marie Desfauzé? Vous publiez être en bonne santé grâce au nerf vague.
C'était un sujet absolument passionnant. La façon dont on respire est l'image de niveau de stress global d'une personne, d'inflammation globale. Et à l'inverse, dès qu'on va travailler la respiration, on peut envoyer des signaux. Je dis qu'on va utiliser le langage du corps pour que le corps raconte au cerveau une histoire où les choses se passent bien. Et par exemple, est-ce que je peux savoir si mon nerf vague est très actif, peu actif? Alors je ne dis pas que c'est une image à 100% parfaite, mais se rendre compte si on est poumon plein ou plutôt poumon vidé, c'est très intéressant. Dès que vous êtes stressé, on a tendance à vivre gonflé à bloc, prêt à éclater, prêt à exploser. Voyez, alors qu'au contraire, quand on est relaxé, on a le cage thoracique qui se relâche et on va avoir une respiration qui spontanément va être beaucoup plus ventrale. Donc ça permet déjà de savoir dans quel état on est. Et ensuite, si on veut favoriser l'activité positive du nerf vague par la respiration, on va donc favoriser des expirations profondes, combinées à des mouvements du corps, des mouvements respiratoires qui sont des mouvements d'étirement, d'extension, qui sont excellents pour le corps, et essayer de faire converger les mouvements respiratoires apaisants, expiration profonde, inspiration tranquille, en oubliant le sternum qui se lève, avec ces mouvements en douceur qui prennent en compte de l'ensemble des muscles et des enveloppes musculaires du corps.
Docteur Guillaume Font, que se passe-t-il d'un point de vue physiologique quand on respire de façon calme, ample, une respiration abdominale? Il se passe quoi exactement?
Alors en fait, la respiration est un tempo, donc elle est traitée comme information au même titre que toutes les informations. Donc la respiration, c'est des poumons qui se remplissent d'air et se vident. Et donc au niveau des poumons, donc il y a des capteurs qui indiquent au corps à la fois donc le degré de dilatation des poumons, donc si on est en train de remplir ses poumons ou de les vider, et la fréquence de respiration est enregistrée par le cerveau. Et en fait, donc il y a des processus donc qu'on appelle par exemple l'hyperpnée, c'est quand on accélère la respiration, et ça induit une activation de l'orthosympathique, c'est-à-dire que quand on est en état d'alerte, c'est comme pour les animaux, le souffle s'accélère pour augmenter l'apport d'oxygène au corps, pour doper entre guillemets les capacités du corps à faire face à un danger. Ça, c'est très efficace sur du court terme. Par contre, si en permanence on a une respiration qui est donc rapide et superficielle, parce que donc quand on respire rapidement, on ne remplit pas tous les poumons, et donc il n'y a pas ce processus de relaxation en fait qui passe par cette dilatation des poumons, et donc c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale. Il y a donc le diaphragme, c'est le muscle sur lequel est basé nos poumons. Quand on respire par le ventre, donc dans les exercices de respiration qu'on appelle de relaxation, on demande aux gens de faire le ventre de la femme enceinte, en fait, parce que donc ça va tirer en fait sur le diaphragme et donc sur le nerf vague, et le nerf vague va envoyer une information au cerveau par les systèmes qu'on a évoqués en première partie d'apaisement, de relaxation, que voilà, de dire il n'y a pas de danger.
Baptiste Beaulieu, vous voyez mon ventre de mère, de femme enceinte, là, vous le voyez?
Je tente plus la même chose. Oui, Guillaume, une question. Quel est le rôle de l'alimentation sur le nerf vague? Est-ce qu'il y a des aliments qui le stimulent, d'autres qui l'abîment, par exemple? Voilà.
Alors nous, ce qu'on connaît bien, c'est le rôle des aliments sur l'inflammation directement. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'études. Alors, si les autres experts autour de la table ont la réponse, avec plaisir, je serais ravi du coup de découvrir ça. Mais moi, je ne connais pas d'études qui ont étudié directement l'influence des aliments sur le nerf vague spécifiquement.
Docteur Yann Rougier, vous avez une réponse peut-être à Baptiste Beaulieu?
J'ai pas une réponse vraiment directement. Tout a été dit, mais je pense, j'ai une expérience personnelle et on peut recouper des études, par exemple, effectivement, il n'y a pas d'action directe au niveau du nerf vague. Par contre, on peut évoquer, et on l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, l'alimentation qui favorise les index glycémiques, donc je veux dire les choses très sucrées qui ont un impact sur le pancréas assez direct et assez fort. Le pancréas, de façon millénaire, est habitué plutôt à des index glycémiques, donc comme les céréales, etc., et non pas les sucres rapides comme les sodas et toutes ces choses-là. Les index glycémiques favorisent en effet rebond, on donne un coup de fouet sur l'instant, mais favorisent en effet rebond une hypoglycémie. Et l'hypoglycémie est quelque chose qui met en notre cerveau, les anglo-saxons appellent ça un emergency mode, un mode d'urgence. Le cerveau n'aime pas les hypoglycémies parce qu'il se nourrit essentiellement de sucre et d'oxygène. Et donc, il va aller activer des zones justement de recherche. Et ça va activer l'opposé du nerf vague, c'est-à-dire tout ce qui va être orthosympathique. Et donc, les hypoglycémies ont tendance à affaiblir le nerf vague, de mon expérience par rapport à ça. On le voit au niveau du sport également. Donc, l'alimentation, oui, au niveau du côté anti-inflammatoire, on le voit avec les indices de Prale et tout ça, on peut vraiment beaucoup aider les phénomènes inflammatoires, les maîtriser un peu mieux avec l'alimentation. Mais je pense qu'en couplant l'équilibre, justement, acide-base de l'inflammation et les index glycémiques, on arrive à avoir une, je dirais, on peut vraiment caresser le nerf vague dans le sens de son bien-être.
Pour le dire vite, mieux vaut privilégier une alimentation de type méditerranéen, bénéfique pour le microbiote intestinal, et éviter, quand on le peut, les aliments ultra transformés.
Et ultra sucrés. Et ultra sucrés. Oui, absolument. Je pense que ça, c'est une vraie notion importante.
Alors, Marie Borel, vous l'évoquiez tout à l'heure, pourquoi le chant est-il bénéfique pour le nerf vague? Même si on chante comme une casserole, comme moi et comme Baptiste Beaulieu. Oui.
Ça, c'est chanter comme une casserole, c'est négatif pour les autres, mais ça reste positif pour soi. D'abord, c'est un travail respiratoire de chanter. Mm-hmm. Quand on chante, même si on ne sait pas chanter, on utilise peu que peu sa colonne d'air, on ralentit le souffle, on expulse le souffle plus loin. Donc il y a un travail respiratoire. Et puis il y a toutes ces vibrations au niveau du pharynx. Et il y a une des premières branches du nerf vague qui se dirige vers l'oreille externe et toute la zone du larynx. Et le fait de faire vibrer cette zone, ça crée un massage, si vous voulez, sur le nerf vague qui passe juste à cet endroit-là.
Et c'est pour ça que vous recommandiez tout à l'heure de faire des gargarismes 30 secondes le matin et le soir. Et alors, au terme de cette émission, c'est déjà terminé. Que faut-il retenir sur le nerf vague et sur les moyens de le stimuler? En quelques mots, docteur Guillaume Font.
Alors, en quelques mots, en fait, la respiration, une alimentation de qualité, de l'activité physique qu'on n'a pas évoquée, mais qui participe aussi à l'équilibre, permet de prendre soin de son nerf vague, c'est-à-dire de rééquilibrer le yin et le yang du sympathique et de l'orthosympathique.
Merci beaucoup, docteur Yann Rougier, Marie Borel. Merci. Stress, inflammation, troubles digestifs, immunité. Et si c'était le nerf vague, c'est publié chez Le Duc. Merci Jean-Marie Desfossés. Être en bonne santé grâce au nerf vague, c'est publié chez Le Duc. Merci docteur Guillaume Font. Colère, ennui, frustration, tristesse, joie, gratitude. On s'intéresse demain à la place des émotions au travail. Et si vous êtes à la retraite, n'hésitez pas à témoigner également, à donner des conseils à ceux qui reprennent le travail en ce moment. N'hésitez pas notamment à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.